Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Exécuté par
qui?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace le parcours de mes invités depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, j'aime ouvrir des voies. Voies V-O-I-E-S. Et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des chemins sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interview, mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis, et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur @fabflorent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers, et surtout, abonnez-vous. Je suis heureux, grâce à Histoire de succès, de pouvoir offrir la parole à des personnalités que vous connaissez peut-être ou pas et de leur donner l'opportunité de parler de sujets qu'ils ou elles n'ont jamais abordés dans un micro en me racontant leur vie, leurs réussites, leurs échecs et les carrefours qui ont composé leur existence. Cette semaine, je reçois Lubiana qui vient de sortir son premier album « Beloved ». On parle souvent dans ce podcast de ce que représente le succès et je crois que cet épisode représente sans doute l'une des plus belles histoires de succès que vous pourrez entendre à mon micro. Même si elle n'a pas encore gagné de Grammy Award, même si elle n'est pas encore disque de platine, Lubiana a réalisé un chemin fabuleux d'amour pour elle qui l'amène à avoir aujourd'hui de l'amour pour les autres. Et de là a découlé cet album fabuleux que je vous incite de tout mon cœur à écouter. Il est en boucle dans mes oreilles depuis 15 jours et quand j'ai rencontré Lubiana, qu'elle a posé son regard sur moi, j'ai compris pourquoi sa musique me faisait tant d'effet. Effectivement, elle transpire l'amour et sa musique est de cette même trempe. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. Nouveauté lors de cette saison, je voudrais vous offrir la possibilité après chaque épisode de m'envoyer une réaction en message vocal. Je sélectionnerai un ou deux ou trois messages que je diffuserai à la fin de l'épisode suivant et peut-être même que j'y réagirai. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien dans les notes de l'épisode ou envoyez-moi une note vocale par téléphone, pas plus de 3 minutes, sur l'email vocal@fabflorent.com. F-A-B-F-L-O-R-E-N-T. Je vous mets toutes les infos dans les notes. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. On est avec Lubiana, salut!
Salut!
Ça va?
Très bien, et toi?
Ça va, très bien. Écoute, on est dans ton label, là. Il y a un peu d'écho, je trouve qu'il y a un côté un peu réverb, un peu acoustique, quoi, tu vois.
Un peu ASMR.
Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes avec Lubiana. Tu me disais juste avant ça que t'étais fan de podcast.
Ouais.
Toi-même, t'as lancé un podcast.
Oui, qui s'appelle Bi. Mais je suis aussi très fan du tien.
Oh, donc, non, mais ça, je voulais pas que tu le redises. Je te lançais pas là-dessus pour que tu le redises.
Avoue, tu voulais que je le redise.
Non.
Non, non, je rigole, mais vraiment, merci pour l'invitation.
Mais avec grand plaisir, en fait. Moi, j'ai découvert ton album par l'intermédiaire de ton attaché de presse, que j'aime beaucoup, il s'appelle Mathieu. Et il m'a filé un lien, tu sais, avant qu'il sorte, un lien privé, là. Je l'ai écouté en boucle.
Ah, oh, mais ça
vraiment, j'ai kiffé. Vraiment, je me suis dit, mais je veux parler à cette fille, en fait, c'est sûr.
Bon, mais génial.
Et après, j'ai découvert ton histoire, je me suis dit, je veux encore plus.
Parlons.
Si t'écoutes un peu le podcast, tu sais que la première question, elle a un rapport avec ton enfance. Donc, à quoi tu ressemblais, en fait, quand t'avais 7-8 ans?
Écoute, hormis ma coiffure, j'avais deux petites couettes.
Ça a changé.
Voilà, un petit peu. J'étais, en tout cas, une enfant qui avait vraiment besoin d'attention. J'avais vraiment besoin de... Voilà, d'avoir ma place. Je crois que mes parents, ils m'ont eu tellement tôt. Ils étaient encore aux études. Et je pense que j'étais un petit peu ce genre d'enfant qui avait besoin d'être aimé, qui avait besoin d'amour, d'attention. Et je crois qu'au début de ma vie, je me suis un petit peu jetée sur la musique, sur la scène, pour combler un peu ce manque, en fait.
Ils avaient quel âge, tes parents, quand ils t'ont eu?
Ma maman avait 19 et mon papa 21. Ouais.
Très jeune.
Très jeune.
Ta maman est belge?
Exact.
Et ton papa est d'origine camerounaise?
C'est ça.
C'est ça. Donc t'as aussi cette double culture? On en reparlera, ça a une importance pour la suite de ton histoire. À partir de quand tu commences à te lancer dans la musique? Est-ce que tu fais assez rapidement t'as fait du piano, c'est ça?
Oui, alors c'était un peu, je vais pas mentir, c'était un peu ça faisait partie de l'éducation du côté de ma maman. Très tôt, les enfants avaient accès à plein de disciplines artistiques et la musique faisait partie de ces disciplines. Et moi, j'ai un peu choisi le piano, il fallait bien choisir quelque chose. Mais c'est vrai que j'étais pas spécialement emballée parce que j'avais plus d'heures de solfège que de piano, en fait. Je faisais 2 heures de solfège et puis 20 minutes de piano. Mais par contre...
Tous les enfants qui sont passés par là savent.
Voilà.
C'est que...
C'est ça.
C'est un peu ingrat.
C'est ça. Et d'ailleurs, plus tard dans mon parcours, ça m'a énormément aidé le fait de retourner à un enseignement plutôt oral de la musique, plutôt dans l'émotion et moins dans la lecture. Mais c'est vrai que ce que j'aimais surtout, c'était être sur scène. Parce que je me souviens très, très petite déjà, quand j'étais sur scène, je voyais mes parents, ils venaient m'écouter, mes parents en plus.
Mais comment tu te retrouvais sur scène quand t'étais petite?
Les petits spectacles d'école.
Ah oui, ok.
Tous les petits spectacles d'école et tout. Ah, et moi, c'était mon moment, attends. c'était plus que Hollywood Bowl, là. Donc c'était, mais déjà là en fait, je me souviens, j'avais les yeux qui brillaient, on m'applaudissait, il y avait un truc, comme je te disais, comme j'étais une enfant qui avait vraiment besoin d'être aimée, je me sentais importante en fait. Et donc j'ai un peu essayé de combler ce manque d'amour désespérément pendant des années par la scène.
Est-ce que tu chantais déjà à l'époque?
Oui, je faisais d'abord des petits spectacles, etc. Et puis vers 12-13 ans, j'ai commencé à chanter. Je chantais aussi beaucoup dans mon mouvement de jeunesse. J'avais décidé de commencer la guitare pour pouvoir accompagner les scouts, tu vois.
Le mouvement de jeunesse, c'est ça, c'est les scouts?
C'est les scouts, okay. Ouais, c'est ça.
C'est le nom des scouts en Belgique.
Exact. Okay. Et ben, on dit les scouts aussi, les guides. Mais donc voilà, je jouais. Et pareil, j'avais remarqué que pendant les chants des scouts, il y avait des partitions pour la guitare. Et donc je me suis dit, je veux être cette personne qui joue de la guitare toujours, parce que j'avais besoin d'avoir ma place, quoi. J'avais besoin de me sentir indispensable. Et donc, du coup, j'ai commencé la guitare. Et puis vers 12-13 ans, je me suis dit, je peux chanter, je peux créer des chansons, etc. Mais c'est vraiment en découvrant le jazz à 15 ans que j'ai découvert Sarah Vaughan, chanter In a Sentimental Mood et puis Nina Simone. Et je me suis dit, waouh, la révélation, c'est ça que je veux faire.
C'était le truc.
C'était ça.
Comment tu t'es dit, alors, ok, je découvre le jazz, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est quoi l'étape d'après alors?
Mais en fait, je suis passionnée par la musique, par le jazz, et je me dis, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose, quoi, d'avoir trouvé une sorte de, oui, de d'oasis. Et mon parcours, il est vraiment parsemé de rencontres un peu magiques. Et elle a vraiment débuté par cette découverte du jazz. Et puis je prenais le tram et il y a une fille devant moi de mon âge plus ou moins. Tu sais, parfois t'es en face de quelqu'un dans le tram et vous regardez, vous savez pas trop quoi vous dire. Et ben là, on a commencé à parler. Elle m'a dit, écoute, faut que tu fasses un stage de jazz à tel endroit, c'est génial. Et je me retrouve à faire ce stage. Et là, je rencontre plein de gens dont c'est le métier en fait, ou qui font des études, et c'est pas forcément des Beyoncé, des Rihanna. Et je me dis, donc c'est possible de vivre de la musique sans forcément être une grande star. Et donc là, ça devient très très concret, et je rentre à la maison très déterminée, peut-être un peu trop, parce que je devenais, tu sais, ce genre d'enfant à l'école, j'ai pas besoin d'étudier ça, je veux faire de la musique. Mais bon, en tout cas, à ce moment-là, c'était très très précis dans ma tête.
Mais donc, à l'époque, t'es encore à l'équivalent du lycée en France.
Ouais.
C'est comment déjà le nom en...
Les secondaires.
Les secondaires, voilà.
C'est ça.
En Belgique. Et t'as déjà ce truc de, ok, après avoir quitté le lycée, je veux faire une école de musique, quoi.
Oui.
Okay.
Je veux faire le conservatoire supérieur. C'est ça que je veux faire. Voilà. C'est très, très précis.
Ok. Comment ça se passe la suite?
Bah, la suite, elle se passe que je fais un examen d'entrée. Mmh. J'en fais d'ailleurs 3 dans 3 écoles différentes.
Okay.
J'ai 17 ans. Et je me dis, ok, ça y est, enfin, c'est ma place. Depuis toujours, à la maison, je chante. Il n'y a que moi qui chante. On m'aime pour ça. Donc, évidemment, ça va bien se passer. Donc, je fais un premier examen d'entrée où on m'arrête au milieu de ma prestation. Et le juré me dit, écoute, Loubiana, il lève sa main vers le ciel, il dit, nous, on est là. Et puis, il la rabaisse plus bas, il dit, toi, t'es là. Donc, voilà. Donc, je quitte en ayant bien compris que j'étais pas prise. Puis, je fais un autre examen d'entrée dans une autre école, à Anvers, qui est un peu plus loin. Et là, j'ai 4 sur 20 à mon examen théorique. Et on me fait comprendre, ça sert même à rien de chanter, en fait. Parce que là, clairement, j'ai pas le niveau. Et puis, finalement, je fais un autre examen en Flandre, encore à Leuven. Et là, je suis prise. Mais après ma première année, on me conseille d'arrêter la musique. Voilà, on me fait doubler. Et on me dit, écoute, on ne pense pas que c'est pour toi. Donc, il faudrait peut-être que tu penses à faire autre chose et à garder la musique sur le côté.
Mais sur quoi tu pêchais, en fait, alors particulièrement ?
La théorie, beaucoup. Okay. La technique. Bah, tu sais, t'as 17 ans, donc évidemment, moi, j'avais fait du solfège, mais du solfège classique. Mais le jazz, c'est encore différent. T'as des tensions, t'as d'autres accords. Donc, il y a plein de choses que je comprends pas, que je connais pas.
Ah, c'était une école de jazz, pour le coup.
C'était une école de chant de jazz.
Ok.
De chant de jazz. Et donc, il y avait plein de choses pour lesquelles, voilà, j'avais pas le niveau, mais j'avais une envie, j'avais un amour pour la musique. Et puis aussi, évidemment, bah, j'ai 17 ans, je me rends compte que j'ai un cours à 10h, un autre à 15h, et puis un à 19h. Bah, moi, entre-temps, je me balade. En fait, je comprends pas que le fait d'avoir autant d'heures de libre, c'est pour travailler, en fait. Le fait de me discipliner, de vraiment être dans la rigueur, c'est encore très abstrait pour moi, puisque avant, je faisais de la musique après l'école, quand j'en avais envie, dans ma chambre. Mais c'était pas devenu une sorte de rigueur, une sorte de chose aussi précise. Et donc là, je me prends une grosse claque, vraiment, à la fin de ma première année. Et je comprends que si je veux vraiment faire de la musique, il faut que je m'accroche.
Il faut que tu travailles, il faut que tu en fasses un truc qui soit plus un hobby, en fait. Parce que j'ai un peu l'impression que jusque-là, tu le voyais comme ça.
Et oui, il faut que je travaille, il faut que je travaille beaucoup. Mais au-delà de ça, en fait, quand je reviens l'année suivante, je vois que mes professeurs, ça les saoule un peu, quoi. Ils se disent, ah non, elle est encore là, celle-là. Elle revient, quoi, en première,
ah,
tu vois.
T'es revenue,
ouais. Je suis encore là, quoi. Je suis pas partie. Et donc, du coup, je sens qu'ils ont un peu une sorte d'a priori sur moi. Ils m'ont un peu rangée dans une case. Et donc, c'est très vite des examens où ils me regardent pas, ils lèvent les yeux au ciel, ils se disent, oh, voilà. Et donc, moi, je m'accroche, je commence à travailler, à me discipliner. Et en fait, je commence à avoir une angoisse terrible.
Okay.
Une angoisse terrible du conservatoire. Je commence à me dire, bah, voilà, j'ai pas ma place, ils veulent me jeter, en fait. Et moi, qui pensais que la musique, c'était ma place, c'était ça, ma valeur, c'était à ce moment-là qu'on m'aimait, tout mon monde est remis en question. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, qui je suis, en fait? Qu'est-ce que je fais de ma vie, de moi? Je commence à avoir des crises d'angoisse terribles. Je fais des examens où je dois prendre des anxiolytiques tellement je tremble. Et puis ça n'aide pas. Voilà, j'ai un professeur de piano qui me dit, écoute, Loubiana, je lui disais que j'avais envie d'aller aux États-Unis, jouer dans des petits bars. Il me dit, toi, on frappe dans un arbre, il y en a 8 comme toi qui tombent. Donc, je commence à me rendre compte que je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas pourquoi je fais de la musique, je ne sais plus rien, en fait. Et je me rends compte qu'il faut que j'apprenne à m'aimer et que je peux pas constamment attendre des autres de l'approbation, parce que elle ne viendra jamais, et qu'il faut que j'arrive à trouver en moi ma propre valeur, mon propre amour. Et donc, c'est là que je commence une quête intérieure.
C'était un long chemin, d'ailleurs.
Un long chemin de 10 ans qui a résulté dans l'album que je sors aujourd'hui, qui s'appelle Beloved. 10 années.
Et tu parles pas de The Voice, en fait, parce que t'as fait The Voice, oui. Juste, c'est avant ou
la
après
même, la même période.
Okay.
Donc, ben justement, tu fais bien de le mentionner, ça a été encore plus intense. Parce qu'à côté, à The Voice, je vis une sorte de buzz, hein, on peut appeler ça. C'est la première saison, donc je ne sais pas vraiment dans quoi je me lance. Mais en tout cas, je suis vraiment, je suis très présente dans les médias. On m'invite partout, on me donne déjà des titres qui sont pour moi pas du tout vraiment clairs. Parce qu'on me dit, oui, la révélation, l'artiste, alors que moi, bah, je sais pas trop ce que je veux faire. Et donc, à côté, j'ai ça, j'ai cette lumière énorme, et puis à côté, j'ai le conservatoire qui me dit, c'est pas fait pour toi, la musique, en fait. Et donc, pendant la première année, je le gère encore plus ou moins bien, et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je double ma première année, parce que je suis très présente sur cette émission, je fais beaucoup d'interviews, de concerts, et donc, c'est vrai aussi que, bah, cette musique, en fait, je la pratique, mais je la travaille peut-être pas dans les détails.
Ouais.
Et donc, il y a vraiment ce rapport-là, et au plus, je fais de la musique, au plus je fais des concerts, concert, au plus je prends du retard dans mes cours. Et donc, au moins je vais en cours, parce qu'au plus je me dis, bah, on va se moquer de moi, j'ai pas travaillé tel répertoire, etc. Et donc, l'année suivante, la deuxième année où je refais ma première, ça, c'est très difficile parce que le buzz de The Voice est passé, je retombe petit à petit dans l'anonymat. On me fait comprendre, ah, c'est dommage, ah, t'aurais pu y arriver. Mais toi, t'as 18 ans. On te fait comprendre que, bah, dommage, quoi. T'as raté ta carrière.
C'est terrible.
Et en même temps, je suis au début de ma carrière, quoi, dans ma tête. Et en même temps, au conservatoire, là, maintenant, on n'a plus de pitié pour moi. On me fait comprendre vraiment pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi je m'acharne. Et donc, je vis une période hyper, hyper difficile psychologiquement, parce que là, j'ai même plus, en fait, de lumière, j'ai même plus d'attention. Et puis aussi, il faut pas oublier que je ne m'aime toujours pas. Donc, je suis toujours pas bien dans ma peau, je suis toujours pleine d'angoisse, j'ai une carapace énorme, parce que j'ai peur, en fait, qu'on découvre qui je suis, j'ai peur qu'on me perce à jour. Et donc, par peur d'être rejetée, parce que j'ai une énorme peur de l'abandon, du rejet, qui est aussi lié à mon enfance, je mets une énorme carapace et je deviens très distante parfois avec les gens, parce que j'ai peur en fait.
On va parler de l'abandon et du rejet, mais sans doute c'est en rapport avec, avec justement cette envie pour toi d'aller vers la lumière. Mais j'en profite pour citer deux épisodes. J'ai interviewé Erika Fleury, qui a fait partie de Popstar, donc qui était aussi une grosse émission, et qui raconte dans son épisode qu'elle s'est retrouvée du jour au lendemain sous les lumières, un peu contre son gré, parce qu'elle y allait comme ça. Et puis elle s'est retrouvée un peu... jeté du jour au lendemain par le système. Et il y a Irma aussi qui a fait un buzz énorme à l'époque, grâce à YouTube et à Internet, et qui elle aussi s'est retrouvée dans une machine qui l'a un peu lavé et qui a fini par faire un burn-out, etc. Donc j'aime bien faire de la promo entre mes épisodes, donc j'en profite. Je trouve en plus que ça marche un peu avec toi. Quand tu dis que t'avais une grosse peur d'abandon et du rejet, j'ai un peu l'impression qu'il vient de ton enfance, si tu veux, tu peux nous en parler aussi, mais tu te mets aussi, toi, dans des circonstances qui vont t'amener là, en fait, tu vois, à te faire envoyer bouler, j'ai un peu l'impression.
Mais en fait, vu qu'au début, mon rapport à la musique, il a été très positif, puisque on venait me regarder sur scène, on m'applaudissait, pour moi, il n'y avait pas de risque. J'allais tout le temps être aimée, j'allais tout le temps recevoir ça. Ma peur de l'abandon et du rejet, elle vient aussi du fait que mes parents m'ont eu très tôt. Et donc, du coup, j'ai été très souvent en garderie, j'étais la dernière enfant qu'on venait chercher. J'étais souvent chez mes grands-parents. Il se fait que mes parents m'ont eu jeune, donc ma mamie, en fait, elle a eu un enfant qui a un an de moins que moi. Donc, j'étais même chez ma mamie, j'étais avec mon oncle, dont on prenait tout autant soin, voire plus, parce qu'il était un peu plus jeune que moi. Donc, j'avais tout le temps cette impression d'être mis un peu de côté. Après, j'adore mes parents et ça fait partie aussi de mon parcours, d'apprendre à pardonner. Et pour s'aimer, il faut pardonner à soi-même et puis à ses parents qui ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Mais c'est vrai que souvent ils oubliaient de venir me chercher, par exemple. C'était ils finissaient tard les études ou le travail, et donc c'était très récurrent, en fait, qu'on m'oublie ou que donc c'était des choses qui ont été très présentes. Et justement, sur scène, il y avait un peu mon ego aussi qui était nourri. Et
hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Puis c'est aussi quelque chose dont je parle, tu t'en parles évidemment dans tes podcasts, moi aussi j'en parle dans plusieurs épisodes de Bi, dans mon podcast, de toutes ces craintes, ces doutes, je pense qu'on vit tous, et je pense que ce manque d'amour, on essaye tous de le combler d'une certaine façon au début de notre vie, parfois même plus tard aussi, et puis moi je m'en suis rendu compte, à 17-18 ans, que je pouvais pas constamment attendre de l'autre qui m'aime, parce que j'allais jamais être remplie, en fait, il fallait que j'apprenne à m'aimer.
Tu racontes aussi beaucoup dans ton podcast ton parcours qui est aussi en rapport avec le propre doute de ta capacité à réussir à faire. Tu racontes aussi que tu finis par aller à Los Angeles.
Ouais.
Mais ça, c'est un peu plus tard, c'est ça? C'est dans un, ouais. C'est dans un deuxième temps.
En fait, ce qui se passe, c'est que voilà, j'ai 20 ans, je m'accroche au conservatoire. À côté de ça, je donne des cours de chant pour essayer de voilà pouvoir aussi un peu avoir de l'argent de côté. Et puis, je commence à être très très fatiguée psychologiquement. Parce que voilà, toujours mes études se passent mal, je passe tout le temps, mais voilà, je sais pas si ça se dit, mais au ras de la cuillère, enfin, ouais. c'est vraiment tout juste, tout juste. Et je commence à me dire, bah, c'est peut-être pas fait pour moi, tout simplement, en fait. Et j'ai envie d'arrêter mes études parce que je me sens constamment humiliée, j'ai constamment l'impression qu'on se moque de moi. Je fais des examens où on me regarde pas, où je sens que les élèves ont un niveau technique que je n'ai pas, et je sens que voilà, je me sens constamment dénigrée. Et moi qui suis à la base rentrée dans la musique aussi pour essayer de me trouver, je me sens complètement perdue. Et en plus, bah, The Voice est passé, donc j'ai plus du tout de lumière, j'ai plus du tout de mes concerts. Y a personne qui vient me voir, y a rien qui marche en fait. Et donc là, je demande. J'ai été aussi élevée avec un rapport très très ancré dans la spiritualité, et donc je commence à demander un signe de l'univers. Je dis voilà, il faut. Enfin, si, est-ce que en fait la musique c'est fait pour moi? Peut-être là, je m'accroche pour rien en fait. À un moment donné, il faut savoir lâcher prise. Et donc je demande un signe. Et puis pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs nuits, je me vois une sorte de rêve. Je me vois en apesanteur avec un instrument que j'ai jamais vu avant. Et je me sens bien, je me sens apaisée. Et cette vision, elle m'obsède en fait. Je veux savoir c'est quoi cette sorte de harpe que je joue qui me procure tellement de bien-être que je ne ressens plus maintenant en faisant de la musique. Et je cherche, je trouve pas, je vois la petite harpe d'Astérix Obélix. je sais que ce n'est pas ça. Et donc j'en arrive à la conclusion que bon bah j'ai dû rêver. Voilà, ça n'a pas de sens. Et je vais voir ma maman et je lui dis voilà, écoute maman, je vais arrêter mes études. Je sais que pour elle c'était très important que je fasse des études, que j'ai un diplôme. Et là elle me dit écoute, viens, on part une semaine en Espagne à Majorque, on va se vider la tête avant tes examens de fin d'année. Et puis après, on va voir. Parce qu'elle voulait pas que j'arrête. Et donc là, je me souviens, on arrive, on marche, on va en haut d'une colline à Majorque. Et là, je tombe en larmes, quoi. Et je lui explique tout ce que j'ai vécu, voilà, tous mes doutes. Et puis aussi pourquoi je fais de la musique aussi, que j'ai tellement besoin de son amour, que j'ai besoin, voilà, que j'ai besoin de me sentir aimée, que j'ai énormément de blessures, en fait. Et là, elle comprend.
Attends, excuse-moi, je te coupe, mais t'as fait tout ce chemin-là toute seule, sans l'aide de aucun psy, spécialiste, thérapeute que ce soit?
Je pense que, je te dis, j'ai voilà une famille qui est très spirituelle, et donc j'ai une grand-mère avec qui j'ai souvent discuté, et donc elle m'a toujours fait comprendre que ce que je vivais, en fait, c'est que l'autre était le reflet de moi, en fait. Et donc
très bon conseil.
Voilà. Et donc, disons qu'à 15 ans, quand je venais dire qu'une telle m'énervait, j'avais pas envie qu'elle me dise « Mais qu'est-ce qu'elle a qui te rappelle tes propres doutes ?» J'avais plutôt envie qu'elle me dise « Ouais, t'as raison, elle est insupportable. » Mais donc voilà, c'était déjà là en fait. Tout okay. Ce questionnement était déjà là. Et donc je commençais voilà à beaucoup me questionner. Et puis là, donc je tombe en larmes, je lui explique.
Majorque, donc oui.
Voilà. Et elle me dit, écoute, je comprends. Elle me dit, voilà, j'accepte. C'est voilà, elle pleure avec moi. Et c'était très très beau comme moment. Et elle me dit, je savais pas que tu souffrais autant. Et c'est pas ce que je veux pour toi.
Tu n'en avais pas parlé du tout pendant tout ton séjour.
Non, parce que je voulais la rendre fière en fait. Je voulais réussir pour elle. Je savais que c'était important que je réussisse mes études. Elle était très fière que je fasse le conservatoire, que je fasse des études supérieures. Je me disais déjà, mes parents me laissent faire de la musique. Il faut au moins que je fasse ça, quoi, pour elle.
Et c'est quand même mieux de faire les choses pour soi dans la vie, mais bon.
Oui, mais je me disais, je fais de la musique pour moi. Et si je fais de la musique pour moi et que elle veut que je fasse des études de musique, ce que je peux comprendre d'ailleurs, le fait de vraiment connaître son métier, je me dis voilà, et puis en même temps c'est chouette, enfin ça restait mon métier, hein, je faisais pas quelque chose que j'aimais pas du tout. Et puis en fait, à partir de ce moment-là où elle m'a dit j'accepte, enfin voilà, je comprends en fait, j'ai eu un poids qui est sorti de, enfin j'ai laissé tomber un poids énorme. Et ce qui a été merveilleux, c'est que le lendemain, on était sur la grande place de Majorque. Et j'entends le son de la cora. Je ne sais pas ce qu'est la cora, mais j'entends pour moi le plus beau son que j'ai entendu de ma vie, comme un coup de foudre. Je m'arrête net et je regarde autour de moi. Je demande à maman, ça vient d'où ce son? Et elle me dit, bah, peut-être de là. Et je vois cet homme qui joue cet instrument que j'ai jamais vu avant. Et je lui ai dit, c'est ça, en fait. Je lui ai dit, c'est, je vais jouer de cet instrument. Et donc, elle m'a dit, bah, attends, tu viens de me dire que t'arrêtes la musique. Maintenant, tu me dis que tu vas faire cet instrument étrange. Et en rentrant en Belgique, j'apprends que cet instrument, c'est la kora, qui est une harpe africaine. Et je comprends que l'instrument que je vois dans mes visions depuis des mois, c'est la harpe. C'est ça, c'est la kora, en fait. Et je comprends que c'est mon signe que j'ai demandé depuis des mois à l'univers. La kora, elle est là pour me dire que oui, ta voix, elle est dans la musique.
Waouh. Sacrée histoire.
Ouais.
Donc tu comment ça se passe? Tu vas t'en procurer une, c'est ça? Déjà, comment on trouve une kora? Parce que
comment on trouve?
Ça se trouve pas comme tu vas dans un magasin de piano et tu dis non. Bonjour, je voudrais un piano, quoi.
Je commence par là, je commence par faire tous les magasins de musique. La kora, la quoi? La kora, la quoi? Puis je regarde sur internet et puis je trouve un griot. J'apprends que la kora, c'est l'instrument des hommes. Elle ne se joue pas par les femmes. C'est l'instrument des conteurs et des magiciens qu'on appelle les griots. Et elle se transmet de père en fils. Je te disais un peu plus tôt dans notre discussion que la kora, en fait, elle est transmise oralement. Il n'y a pas de partition, il n'y a pas d'écrit. Et donc, quelle libération pour moi qui était tellement, peut-être un peu traumatisée par un enseignement académique qui me faisait comprendre que parce que je n'arrivais pas à lire, parce que je n'arrivais pas à entendre les tensions, les accords, je n'étais pas faite pour la musique. En un coup, il y a plus tout ça, en fait. C'est que de l'écoute, c'est que de l'émotion. Et donc, je découvre ce maître, parce que la kora, c'est un enseignement, et on n'appelle pas ça un professeur, on appelle ça un maître. Et donc, je commence cet enseignement avec lui, avec ce maître, qui habite à 2 heures de train de chez moi. Donc, je passe mes journées, pendant les grandes vacances, à aller chez lui. Et puis, à un moment donné, à la rentrée, je décide de continuer quand même mes études. Et je sais que c'est pas possible, en fait, de faire 8 heures par jour, 6 heures par jour de transport, de cours. Et là, je rencontre un autre maître à Bruxelles qui me connaît, qui a déjà entendu parler de ma musique et qui me dit, écoute, je te donne des cours de kora et toi, tu me donnes des cours de chant. Et donc, on commence un enseignement qui on se voit tous les deux jours, 4 heures, 6 heures par jour, où on ne parle pas, on joue. Voilà. Et on arrive presque à un état de transe, en fait. Et ça m'a libérée, le fait de me reconnecter à un rapport qui est, en fait, pour moi, qui est indispensable pour la musique. C'est comme un enfant, on va d'abord lui demander de parler avant d'écrire ou de lire. Et ben pour moi, c'est pareil, la musique, c'est quelque chose qui se vit, qui se ressent, avant même de devoir la codifier. Et la kora, elle m'a vraiment libérée, en fait.
Waouh, c'est fou. Non mais c'est vrai, ça me scotche. J'ai l'impression que tu te rends compte à ce moment-là que le truc que tu voulais faire depuis des années, où tu as essayé de rentrer par un chemin qui t'était pas forcément, qui marchait pas trop avec toi, quoi, avec ta façon de faire. D'un coup d'un seul, tu as trouvé une autre voie, en fait, et qui t'a...
La kora, ça a été merveilleux parce que non seulement elle m'a libérée, mais en plus, elle m'a fait voyager. Parce que très tôt, je suis arrivée en disant, voilà, je vais faire de la kora, regardez, c'est incroyable. Avec des gens qui étaient pas forcément, qui comprenaient pas forcément ce que je faisais. C'est vrai que la kora, c'est un instrument déjà qui est pas beaucoup joué, qui est joué quand même par des griots, qui est très traditionnel, musique du monde. Moi, j'avais envie de l'incorporer dans ma musique et on comprenait pas trop vers où je voulais aller. Et donc la kora, elle m'a donné cette force de voyager. J'ai été en Angleterre et puis après, je me suis dit, il faut que j'aille encore plus loin, il faut que j'aille à Los Angeles, que je perde toutes mes attaches, en fait, que j'aille à un endroit où personne me connaissait, où le fuseau horaire faisait que j'avais pas de famille, pas de proches à appeler. Et là, j'allais...
Tu voulais partir?
Je voulais, en fait...
C'est une fuite ou...
Non, je voulais aller à l'essence de moi, en fait. Je me suis dit, j'ai commencé cette quête à apprendre à m'aimer. J'ai eu ce signe de l'univers qui me dit, oui, la musique, la kora est là pour te dire que tu peux, que c'est ta voix. Et maintenant, je voulais rencontrer mes failles, mes peurs, mes doutes, mes angoisses. Et je savais que pour changer, quand on est en train de changer, c'est difficile de changer quand tout le monde autour de toi a une certaine image de qui tu es. Et moi, j'étais en train de changer, en fait. J'étais en train de grandir. Et il fallait que j'aille dans un environnement où personne ne me connaissait, où j'étais complètement libre. Et en allant aux États-Unis, en perdant tous mes repères, j'ai pris en fait toutes mes peurs et tout ce que j'ai mis de côté, je l'ai pris en pleine figure en fait. Et là, j'avais pas d'autre choix que d'apprendre à m'aimer. C'est là que j'ai commencé à écrire les premiers titres de mon album, notamment le titre Self Love qui parle de ça, qui parle de s'aimer. Et c'est vraiment ça a été une libération dans tous les sens du terme en fait.
Mais tu parles de ça comme si c'était un chemin conscient du fait que tu partes. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui partent en se disant en fait c'est l'environnement qui me va pas, il faut que je change d'environnement pour faire en sorte de changer de vie si tu veux. Et en fait quand ils partent, ils restent quand même avec leurs problèmes en eux quoi, si tu veux. C'est pas parce que tu changes à un moment donné de ville ou de pays ou peu importe que tu règles tes problèmes. J'ai l'impression que toi t'as fait le chemin inverse, ou alors tu t'es retrouvé aux États-Unis en te disant ah bah ça y est, je suis tout seul et maintenant je suis face à moi-même, il faut que je me démerde.
Ben en fait c'est ça, je suis arrivée sur place et j'ai commencé à jouer tous les soirs dans des open mic, dans des petits bars, et je me suis dit voilà, il faut qu'on, enfin j'avais envie d'être entendue en fait. Et là je commence à jouer tous les soirs, et puis de façon assez folle je me fais découvrir par un énorme producteur qui travaille avec Beyoncé, Frank Ocean, etc. Et il me dit ok, viens en studio, on va travailler ensemble. Et là bah en fait je me rends compte que waouh, j'ai dans ma tête c'est mon sauveur. Donc je me disais ce producteur il va me sauver, il me dit voilà tu vas jouer à la Maison Blanche, j'ai parlé de toi à Herbie Hancock, tu vas jouer à tel endroit, il me présente Anderson .Paak, Liane Lahavas, il me dit Ljubljana tu vas être une star, moi j'ai 23 ans, j'ai tout quitté pour venir ici, et je me dis waouh. Et puis en plus partout où je parle de lui, tout le monde est ah mais là t'as rencontré le summum, il y a des Grammy Awards autour de moi toute la journée. Et puis j'en parle à mes proches en Belgique qui se disent bah incroyable. Et en fait je commence par toujours mon manque d'amour de moi à rentrer dans une relation où je ne me respecte pas, où je ne m'écoute pas et où je lui donne tout mon pouvoir. Et donc cette personne qui n'y peut rien, je lui ai donné hein, la permission, commence à prendre possession en fait de qui je suis, de ma musique, et cette personne ne veut pas entendre parler de mon héritage africain, de ma culture, de ma double culture, de mes influences pop européennes, de mes influences africaines. Lui, il veut de la new soul, il veut de la musique américaine, il dit c'est ça qui marche ici, c'est ça qu'on va faire pour toi. Et je me souviens très bien à un moment donné me dire il y a quelque chose qui va pas en fait. Je sens que ça va pas. Mais partout où j'en parle, on me dit mais t'es folle. Enfin non, on me dit ah oh, mais Ljubljana, arrête. Enfin là, t'exagères. T'es avec le plus grand producteur des États-Unis. Tu vas pas te plaindre quoi. Enfin c'est bon. Là, il sait ce qu'il fait. Et moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je rentre de cette session, je suis épuisée, je suis fatiguée, je me sens mal. Et je me souviens à un moment donné, pour moi, c'est encore un signe assez fou, c'est que je me dis le jour où je travaillerai avec le producteur de Liane Lahavas, ça sera vraiment bien. Et à ce moment-là, il me dit ah oui, d'ailleurs, je travaille avec Liane Lahavas, je vais te faire écouter la prod. Et là, je me dis bon, là, ça veut dire que ce son que je cherche, il n'y a que moi qui peux le trouver, en fait. Et donc, je commence à comprendre que je ne peux pas, en fait, attendre de l'autre qui réponde à ce que moi je veux pour ma vie. Il y a que moi qui sais. Et peu importe le statut, la notoriété, la célébrité, peu importe ce qu'on nous fait miroiter, si c'est pas en adéquation avec moi, si je sens que c'est pas juste pour moi, ce n'est pas ma vérité, ce n'est pas ça. Et donc après ces sessions, il me dit voilà, je vais te signer. Là, tout mon entourage, incroyable. Tu vas vivre aux États-Unis, tu vas signer avec l'un des plus grands producteurs. Et là, je me dis, oui, c'est fou. Et je me dis, mais il faudrait peut-être quand même que j'ai un avocat quand même pour discuter.
C'est toujours mieux.
C'est toujours mieux. Mais moi, j'ai pas d'argent, j'ai pas les moyens de me payer un avocat. Et ce producteur, il me dit, mais non, c'est bon, t'inquiète, t'as pas besoin d'avocat. Et il se fait que dans mes nombreux open mic, j'ai rencontré Gary, qui est un avocat dans le secteur artistique, qui travaille à Beverly Hills, qui a été touché par mon histoire, qui est un batteur et qui chante un peu dans des bars le soir pour se faire plaisir. Il me dit, écoute, je vais te représenter, je connais très bien ton producteur, envoie-moi ton contrat et puis je serai payé après, une fois que tu auras signé ce contrat. Et donc là, il commence à avoir une question de « Ah, mais quoi, tu discutes notre contrat ? Enfin, non, enfin, qu'est-ce qui se passe ?» Et je me souviens très bien de ce rendez-vous au bureau de Gary.
C'est étonnant quand même, parce qu'en général, ils ont l'habitude, les producteurs, d'avoir ce genre de relation.
Moi, dans sa tête, Je suis une jeune fille de 23 ans de Belgique qui débarque, qui a pas de contact, qui connaît personne. Donc évidemment que je vais signer en fait, parce que je lui ai fait comprendre que c'était ma priorité. Je lui ai fait comprendre que peu importe l'heure, il m'appelait, je venais. Peu importe mon emploi du temps, je venais. En fait, je lui ai fait comprendre, et c'est vrai, je lui ai donné tout mon pouvoir. Donc pour lui, j'allais pas discuter un contrat. Et d'ailleurs, il me disait, dès qu'on arrivait quelque part, en backstage, avec, je me souviens, j'ai fait des backstage avec Erika Badou, de Roots, il disait, c'est mon artiste. Donc j'étais plus une artiste, j'étais son artiste. Donc tout était clair, en fait. Et moi, j'étais fière, je disais, oui, je suis son artiste. Tu vois, j'étais dans un truc. Et je me souviens, Gary me fait venir dans son bureau, du coup mon avocat, il me dit, écoute Ljubljana, je vais pas te mentir, c'est un mauvais contrat. J'ai essayé de discuter avec eux, ils veulent rien entendre. Il m'a dit, écoute, soit tu signes ce contrat, mais je vais te faire un parallèle. Il m'a dit, c'est comme un mariage. Soit tu te dis, je me marie avec cette personne parce que je trouverai jamais quelqu'un de mieux et je préfère être avec cette personne que d'être seule. Soit tu te dis, je sais pas ce que demain me réserve, mais je connais ma valeur et je sais que je mérite d'être aimée pour qui je suis. Et quand il m'a dit ça, je me suis revue, en fait, mon enfant. J'ai revu mon parcours. Je me suis revue avec mes doutes, avec mes questionnements. Et je me suis dit, je suis pas allée si loin. J'ai pas fait tout ce chemin pour, encore une fois, ne pas m'aimer, ne pas me mettre à la première place. Et là, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai fait l'acte, le plus bel acte d'amour et le premier acte d'amour que j'ai fait envers moi-même. Je me suis choisie moi, en fait. Et là, j'ai dit non, je ne vais pas signer ce contrat.
Ouais, mais t'as quand même le producteur de Frank Ocean qui te tend les bras.
Mais je me dis non, en fait.
C'est aussi évident que ça pour toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Tu ne te dis pas, ok, je vais réfléchir 24 heures. Il y a un truc qui vient de toi qui est évident.
En fait, ce que je me dis, c'est pas je dis non au contrat, c'est je dis non au contrat tel quel. Je dis je n'ai pas signé un contrat si moi-même je ne me sens pas respectée et pas aimée. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a évidemment qui l'a choqué. Lui, il s'est dit bah en fait non, ça c'est ça ou c'est rien. Ça a été dur évidemment parce que tu te retrouves sans rien. Tu en un coup tu as l'impression que ton rêve il est là quoi à portée de main et puis en un coup il part. Mais ce que j'ai appris, c'est que peu importe le titre, peu importe la notoriété, on est tous des êtres humains et on a tous la même valeur. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de valeur qu'un autre. Et aujourd'hui, j'ai vraiment appris ça dans mon parcours. C'est pas parce que quelqu'un est plus célèbre, a plus d'argent, ou peu importe, ou un titre plus grand, que cette personne a plus de valeur que toi. Ma valeur, elle est la même que la tienne. Et elle est la même que Beyoncé, si tu veux. Je veux dire, je suis un être humain, je mérite le respect, je mérite d'être aimé, et je ne vais pas me diminuer, me négliger sous prétexte que telle personne a plus de valeur que moi. Parce que en fait, c'est pas vrai. On a tous une vie et on a tous cette force merveilleuse qui est de donner et de partager de l'amour. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'aimer et j'ai commencé à me dire, en fait, je mérite le mieux et le meilleur pour ma vie. Et peu importe le temps que ça prendra, je réussirai à réaliser mon rêve.
C'est ton déclic, ça? C'est ce moment où tu te dis de la petite fille qui se sent abandonnée et rejetée, et qui se fait rejeter d'ailleurs pendant tout son parcours jusqu'à cette discussion là avec ton avocat. T'as la sensation aujourd'hui que c'est ton déclic ou c'est venu petit à petit?
C'est venu progressivement. Ouais. C'est vraiment venu progressivement et ça a été un vrai voyage. Et c'est aussi, c'est comme ça que je vois la musique, que je vois mon album. C'est vraiment une quête en fait de soi. Et ça a été une quête de 10 années où j'ai appris en fait à travers mes rencontres, à travers mes échanges. J'ai appris à m'aimer, j'ai appris aussi à changer mon rapport à la musique. Pendant longtemps, je faisais de la musique pour être aimée et aujourd'hui, je fais de la musique pour donner. Pendant longtemps, je me disais qu'est-ce que j'ai à y gagner. Je me souviens, un jour, j'avais un rendez-vous et je disais à un ami, je disais, mais pourquoi je vais à ce rendez-vous? Qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi? Et il m'a dit, mais Ljubljana, tu peux pas vivre ta vie en te demandant ce que tu as à gagner. Pense à ce que tu peux donner. Et aujourd'hui, j'ai vraiment changé ma notion de prendre à donner et à être dans une envie de service. Aujourd'hui, ma musique, c'est comme ça que je la vois. C'est quelque chose que je donne, que je partage. Et on prend ou on prend pas. Mais je pense que le sens de la vie, en fait, il est là. Il est dans le service, dans le partage d'énergie. Et on a tous, que ce soit ici dans notre entretien en podcast, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec la personne qu'on croise dans la rue, que ce soit avec nos frères et sœurs, avec nos parents. En fait, on a tous cette capacité merveilleuse de donner. Et aujourd'hui, j'ai vraiment fait ce choix de donner de l'amour, en fait. Et cet amour, j'ai appris à le trouver d'abord en moi pour pouvoir le donner. Il est passé aussi par une reconnexion à mon métissage, à mes racines. En rentrant des États-Unis, j'ai décidé d'aller au Cameroun. Ça faisait 10 ans que j'y avais plus été, d'aller sur la terre de mes ancêtres, d'aller voir mes grands-parents, d'aller sur ma tribu, parce que je viens d'une tribu Bamileke, de parler à mes ancêtres. En un coup, en fait, en faisant tous ces voyages...
Bamileke, c'est... Pardon.
Bamileke, oui, c'est vrai que je te dis ça comme si... Ben oui, Bamileke, évidemment, tu connais. Toi-même, tu sais. Mais donc, en fait, je suis... mon papa est camerounais et je viens d'une lignée à l'ouest du Cameroun qui s'appelle les Bamileke, qui est une tribu. Et plus précisément, je viens d'une lignée qui s'appelle les Tiasanga, qui sont des magiciens et des sages et qui lisaient l'avenir, en fait. On dit... ça va faire un peu mystique, mais... Dans les tarentules, les grosses araignées,
ouais.
Ils tournaient les araignées. Désolée pour les gens qui sont arachnophobes, du coup, je vais vite faire une petite parenthèse, mais du coup, en fait, ils lisaient l'avenir et ils allaient voir le roi du village qui s'appelait Nono et il prédisait l'avenir et tout ce qui allait se passer. Et le roi du village aimait tellement ma famille qu'il leur a donné une partie, une terre, en fait, dans mon village qui s'appelle Bangwa. Et mes grands-parents m'ont donné, en fait, le nom de mes ancêtres. J'ai un nom très long qui s'appelle Lubiana Kwamu Kepau Chuchu Nono. Je porte notamment le nom du roi, en fait, de mon village. Et pendant longtemps, je reniais mon métissage, en fait. Je voulais pas en entendre parler. J'étais née en Europe. J'étais européenne. Et donc, moi, je voulais pas, ça m'intéressait pas, en fait, de savoir qu'est-ce qui se passait dans ma tribu ou quoi que ce soit. Et donc, pour apprendre à m'aimer, j'ai dû aussi apprendre à embrasser toutes les parties de moi, en fait. Mon métissage et en être fière.
T'as eu un déclic aussi par rapport à justement cette envie de retourner vers tes racines?
Oui, et ça s'est aussi passé avec la kora, parce que la kora, c'est justement un instrument qui est lié à la tradition, elle, plutôt d'Afrique de l'Ouest, de ses griots, de ses conteurs, et qui est un instrument mystique, magique. On raconte que l'une des légendes dit que la kora, c'était l'instrument d'une femme génie, et qu'un jour, un guerrier parti chasser, qui s'appelle Sundiata Keita, a entendu le son de la kora dans les grottes d'Afrique, en est tombé amoureux, a dérobé l'instrument et l'a ramené au village. Et comme en Afrique, on est par caste, tout le monde ne peut pas faire de la musique, seuls les griots peuvent en faire. Lui, il était de la caste des nobles, du coup, puisque c'était un guerrier, mais aussi un roi. Il a donné la kora à cet homme, il lui a dit, tu vas en jouer pour moi, pour tout notre peuple, et tu vas la transmettre. Et j'ai trouvé ça tellement beau, tellement fascinant, que je me suis dit, mais en fait, moi aussi, j'ai envie de me reconnecter à ma culture. Moi aussi, j'ai envie de me reconnecter à mon histoire. Moi aussi, j'ai envie de me reconnecter au monde, en fait. Et l'une des choses que j'ai apprises à travers mes voyages, c'est qu'on est tous issus du métissage. Bien sûr, je suis sensible à ma culture camerounaise, à ma culture belge, mais je me considère comme un enfant du monde. Et je suis passionnée et j'ai un amour pour l'autre, pour aller vers l'autre. Et je me rends compte que parfois, c'est plus facile d'accepter l'autre quand il est loin de nous, quand il vit très loin et qu'il a une croyance très lointaine. On se dit « oui, oui, bien sûr, tu crois en ça, oui, c'est très bien. » Mais qu'en est-il de l'autre qui est à côté de nous et qui a un avis divergent sur un sujet qui nous tient à cœur? Pourquoi est-ce qu'on est constamment dans les conflits? Pourquoi est-ce qu'on a constamment besoin d'être dans la scission? Et c'est vraiment ça que je partage aujourd'hui à travers ma quête, à travers mon podcast, à travers ma musique, un retour à l'amour et se rendre compte qu'on est tous liés, en fait. On est tous unis.
Et je rappelle que tu as 27 ans. Tu parles un peu comme une vieille âme, tu sais, c'est trop marrant.
Appelle-moi Mamie Loubi. On me dit souvent que tu as 27 ans. Oui, j'ai 27 ans, en effet.
Après, l'âge, enfin, tu vois, pour moi, la valeur n'attend pas l'âge ou n'attend pas le nombre d'années, si tu veux, mais il y a un truc quand même, je trouve, où tu as tendance à apprendre, je trouve, ce genre d'enseignement un peu plus tard dans ta vie, quoi.
Et pourtant, tu sais, la peur du temps, la peur de l'âge, c'est quelque chose qui a été tellement présent pour moi. Parce qu'en fait, dans ma tête, il fallait réussir jeune. Il fallait que j'ai 19 ans pour réussir ma carrière. Il fallait qu'à 20 ans, j'ai déjà sorti mon premier album, que j'ai mon plus grand succès. Et c'est vrai que j'avais cette impression qu'une artiste se devait d'être le plus jeune possible, en fait. Et pendant longtemps, j'étais dans une angoisse constante parce que j'avais 21 ans, 22 ans, 23 ans. Et j'étais toujours pas là, en fait. J'étais toujours pas là où je voulais être. J'étais toujours pas à cet objectif. Et aujourd'hui, je suis tellement fière de mon âge. Pourquoi ? Pas parce que j'ai 27 ans, ou parce que oui, c'est jeune, mais je suis fière de mon âge parce que ça m'a mis 10 ans. Et j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, croyant en vos rêves, peu importe le temps que ça met, peu importe votre âge, 27 ans, c'est peut-être jeune, mais dans le milieu de la musique, c'est peut-être pas forcément le plus jeune.
C'est souvent l'âge où on meurt d'ailleurs, hein, 27 ans.
Non, s'il te plaît, ne parle pas de ça. Quand même. Mais disons que c'est aujourd'hui, c'est 10 années, en fait, j'en suis fière. Aujourd'hui, on est dans une image peut-être où tout doit venir vite, où on doit très vite avoir du succès, on doit très vite réussir, on doit très vite avoir arriver à un certain but. Moi, j'ai envie de célébrer aussi le temps. J'ai envie de célébrer le trajet, le chemin. C'est pas tant d'être au sommet qui compte, c'est de profiter de chacune de nos étapes, en fait.
Je te disais ça par rapport aux 27 ans, c'est qu'il y a plein d'artistes célèbres qui sont,
oui, je sais,
foutus en l'air à 27 ans, mais ils étaient, j'ai la sensation qu'ils étaient dans un mal-être terrible par rapport à leur succès et que toi t'as choisi une autre voie, en fait. T'as choisi de te choisir toi, en fait, plutôt que d'aller vers le succès, en tout cas, qui te tendait les bras à Los Angeles, un peu là.
Oui, et c'est ça, je dis souvent, la lumière, elle ne fait que mettre en avant ce qu'on essaye de cacher, donc, je suis en fait heureuse d'arriver aujourd'hui avec mon premier album, parce que peut-être que si ça m'était arrivé à 17 ans, j'aurais et que ça avait duré, j'aurais complètement mal tourné, parce que je pense que ce qui est le plus important dans la vie, c'est de s'aimer, de se choisir, de se respecter. Et le succès, et pourtant on l'a tellement entendu et pourtant on l'oublie tellement, et encore moins, hein, parfois je me dis, oh, j'aimerais avoir le plus grand disque d'or, j'aimerais avoir la plus grande tournée sold out. Et bien sûr, on a tous des rêves qui sont parfois justement qui sont liés au fait d'avoir un certain type de succès. Mais je pense que ce qu'on cherche tous, le vrai bonheur, c'est pas dans le succès qui se trouve, c'est en soi. La vraie plénitude, quelque chose qui dure, c'est dans l'instant présent qu'on le trouve. Et ça, aujourd'hui, c'est pour moi là le vrai but de ma vie, c'est d'arriver à être dans un état d'esprit où je suis en paix complètement avec moi-même et je suis en paix du coup avec les autres.
Et donc sorti un premier EP, c'est ça, après ça ?
Ouais.
Où t'as commencé à y mettre ta musique à toi et...
Ouais. Exactement, je suis rentrée en Belgique après ce contrat, hein,
ouais,
du coup, qui n'a pas eu lieu, très dur, parce que du coup, tout le monde me dit, ah, bah, ok, bah, au moins t'aurais essayé, quoi, enfin, là, qu'est-ce que t'auras pas fait, quoi, tu vois, à un moment donné, t'as été en Angleterre, t'as été aux États-Unis, t'as écumé tous les open mic, enfin, à un moment donné, je veux dire, si là ça marche pas, quoi. Mais moi, entre temps, je n'en démords pas, je sais que c'est ma voix, je sais, j'ai eu les signes, j'ai eu assez de signes pour savoir que c'est ma voix intérieure me dit que la musique est faite pour moi, et donc je décide de repartir aux États-Unis. Je fais un petit passage express à Paris, je fais un petit concert et je décide de faire un ou deux open mic vite fait, mais j'y prends pas attention, je fais juste vite une petite semaine et puis je repars aux États-Unis, mais là avec mon EP dans ma tête. J'ai tout enregistré à la maison, j'ai fait mes voix avec en me disant, cette fois-ci je vais faire appel à un ingénieur son, pas un producteur mais un ingénieur son qui va enregistrer ma musique exactement comme je la veux, exactement comme je l'entends. Je veux plus de producteurs qui me disent c'est ça qu'il faut que tu fasses parce que c'est ça qui marche, nanana.
Faut que tu te transformes en Beyoncé, quoi.
Exactement, même si j'adore Queen Bee, évidemment.
Bien sûr.
Mais je veux dire, en tout cas maintenant je veux mon son, je veux créer mon son, et mon son devient de plus en plus précis. Et donc je vais aux États-Unis, j'enregistre mon EP, j'économise, je donne des cours de chant, je fais des petits stages et j'enregistre cette EP toute seule, très précisément. Et je vois passer sur Facebook, oui, bonjour, nous sommes le label, nanana, nous aimerons te rencontrer. J'y prête pas attention, je t'avoue, je me dis oui, encore un truc qui va tomber à l'eau, machin. Mais je réponds quand même. Je dis, ah oui, là, pour l'instant, je suis aux États-Unis, mais et puis je pars en Asie, mais à mon retour, on peut se rencontrer, ok. Et il se fait que je rentre en Belgique, je repars directement après aux Philippines, et puis je reviens à nouveau en Belgique, et là, j'ai ce rendez-vous avec ce label où nous sommes actuellement, 6 et 7, qui est le label de Pascal Nègre. Et j'y vais avec mon manager Arnaud, qui travaille avec moi depuis 10 ans et qui est l'un de mes meilleurs amis. On y va à deux en se disant dans notre tête, encore un truc, ça va pas le faire. On est sûr, on va nous dire non, on va nous dire ta musique est trop ceci, ça marche pas, ça va encore tomber à l'eau, on en a fait tellement des rendez-vous. Et donc on arrive ici hein, dans un truc de battant, quoi. Genre, vous allez pas nous abattre, on va y aller, tu vois, vous allez pas nous diminuer. Et en fait, on arrive et là, ils nous disent, écoute, voilà, on a vu quelqu'un qui a fait une story de toi sur Insta pendant ton passage à Paris. En fait, j'ai fait une semaine à Paris qui me semblait anodine. Et en fait, il y a quelqu'un qui a reposté une story. Et puis, en fait, le label est tombé dessus. Et puis voilà. Et puis, ils me disent, on veut te signer. Et là, c'était pas, on attend, on discute, peut-être. C'était clair, en fait. On te veut pour qui tu es. Et je me suis dit, en fait, ça y est, des gens qui sont là et qui me voit, et qui m'aime, et qui aime ce que je fais, pour qui je suis. Pas pour une image de machin. Et à ce moment-là, j'ai tout laissé tomber, quoi. J'ai laissé tomber toutes les armures, toutes mes peurs, et j'ai dit, moi aussi, j'ai envie de faire cette aventure avec vous, et j'ai envie de vous donner ma confiance, et ça va dans les deux sens. Et c'est à ce moment-là que j'ai sorti, que j'ai signé, que j'ai sorti quelques temps plus tard mon premier EP, du coup l'année passée, et aujourd'hui mon premier album, et ce qui est assez fou, c'est qu'il sort en septembre 2021, exactement 10 ans après mon passage à The Voice, puisque j'ai fait The Voice en septembre 2011. 10 ans.
Il fallait le temps.
Oui.
En plus, cet album s'appelle Beloved. Donc c'est marrant parce que ça parle d'amour de... Enfin, t'as donc ce fameux titre dont tu parlais un peu plus tôt, qui s'appelle Self Love aussi, où tu parles donc beaucoup d'amour dedans.
Oui, et puis Beloved, c'est aussi la signification de mon prénom, Ljubljana.
Qui veut dire, classe, franchement.
Merci papa, maman, qui veut dire bien-aimé. Et en fait, ce qui a été fou, c'est que cet album, en fait, je me dis depuis le début, en fait, je porte son nom, il est là en fait. Il m'aura fallu apprendre à m'aimer et me rendre compte qu'en fait, je suis aimée, je suis bien-aimée, beloved, comme on le prononce en anglais, bien-aimée, mais j'aime bien le prononcer beloved parce que ça sonne plutôt comme soit amour. Et c'est ce que ces 10 années de quête m'ont apprise, c'est que le plus important dans la vie, c'était l'amour. Et je veux en fait être amour, je veux partager, je veux donner, je veux être dans l'échange, je veux envoyer des bonnes énergies aux gens autour de moi. Pour moi, c'est ça le but de ma vie, et je pense que c'est ça le vrai but de toutes nos vies en fait. Et que dans la vie, il y a deux options, c'est soit l'amour, soit la peur, et que tous les conflits, les guerres viennent de la peur de l'autre, de la peur de cette peur en fait qu'on a tous. Et quand on se rend compte qu'on n'est pas si différent et qu'on agit soit par amour, par peur, on éprouve de la compassion pour les peurs de l'autre, pour les angoisses de l'autre, parce qu'on sait en fait que c'est juste un manque d'amour déguisé. Et à partir de ce moment-là, on va vers l'autre. Et moi, j'ai appris en fait, en voyant tout mon cheminement, j'ai appris à pardonner. Je me suis pardonnée à moi-même pour toutes les fois où j'étais difficile envers moi, mais j'ai aussi pardonné à mes proches, à mes parents. Je me suis rendu compte qu'ils ont fait de leur mieux et que les fois où peut-être ils m'ont blessé, c'était leur propre manque d'amour, ce qu'ils n'ont peut-être pas eu eux pendant leur enfance. Et j'ai pardonné à mes professeurs parce que je me suis dit que tout ce qu'ils m'ont fait, tout ce qu'ils m'ont donné, c'était aussi peut-être eux, leur manque de confiance en eux, leur peur aussi, peut-être l'enseignement qu'eux-mêmes ont eu. Ils m'ont donné en fait ce qu'ils pouvaient me donner au moment même. Et aujourd'hui, c'est vraiment important pour moi de ne pas passer un message de voilà, bien fait pour vous, j'ai fait mon album. C'est pas moi contre les autres, c'est moi avec les autres, avec nos peurs, avec nos angoisses, et transformer nos peurs avec un retour vers l'autre. Et aujourd'hui, je n'éprouve vraiment, et je le pense sincèrement, que de la reconnaissance, de la gratitude pour tous les obstacles que j'ai vécu, parce qu'ils m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui.
Écoute, ça fait 50 minutes qu'on parle. J'ai pris quelques grandes inspirations, plusieurs reprises. C'est très inspirant. Vraiment, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et en plus, on sent une vraie... Enfin, les gens ne te voient pas, mais en fait, moi, je vois tes yeux. Et on sent qu'en fait, dans tes yeux, ça pétille. Ça pétille tout ce que tu racontes, en fait, tu vois. Donc, c'est très, très cool.
Merci, merci à toi pour cette invitation. Encore une fois, je te le redis, c'est vraiment un bonheur.
Oh, c'était super. Merci beaucoup de t'être ouverte. Et puis, bah, bravo pour ce chemin fou de 10 ans qui t'amène là où t'es aujourd'hui, et d'avoir choisi l'amour face à la peur, quoi. Tu vois, vraiment. Ça n'a pas dû être facile.
C'est un choix tous les jours. Tous les jours, je peux choisir de m'énerver. En fait, tous les jours, il faut re-choisir l'amour. Et tous les jours, je fais une dernière petite aparté, mais je donne un exemple très concret. Il suffit t'es dans les embouteillages, il y a quelqu'un qui te gueule dessus, ou il y a quelqu'un qui s'énerve. En fait, tous les jours, tu choisis de ne pas prendre ces énergies-là et de te dire non, je ne vais pas prendre cette énergie-là, je ne vais pas prendre cette colère et je ne vais pas donner cette colère que quelqu'un m'a donnée à quelqu'un d'autre. C'est vraiment couper ces liens à chaque fois et toujours choisir les petites choses qui arrivent tous les jours, qui sont merveilleuses. Et j'ai souvent entendu dire l'homme est mauvais, l'humanité est immonde, mais moi je ne pense pas ça une seule seconde. Je pense qu'il y a des choses merveilleuses sur cette terre. Tous les jours il y a des miracles, tous les jours il y a des choses magnifiques et tous les jours il y a des actes de bonté, des actes merveilleux qui se passent. C'est juste qu'on fait peut-être pas assez attention à ces actes-là. Et moi aujourd'hui c'est ces actes-là que j'ai envie de mettre en avant. C'est ces actes-là qui me donnent de l'espoir et qui me font aimer le monde, qui nous font aimer, qui me font aimer notre terre et puis tous les êtres humains qui peuplent notre planète.
Ouais, bah écoute, c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est fou à quel point ton album respire et ta musique respire d'une manière générale tout ce que tu es en train de dire, quoi. Vraiment, je l'ai ressenti comme ça. Une grande bouffée d'oxygène, en fait, vraiment. Donc, c'est cool.
Ouais, merci.
Je mettrai tous les liens dans les notes pour que les gens puissent te suivre sur les réseaux, écouter ton album sur les plateformes, l'acheter, etc., s'ils souhaitent, quoi. Un grand merci à toi.
Merci à toi.
Est-ce qu'on a un peu de temps, tu crois, pour que tu me fasses une petite démo de ton... Alors, ce sera audio, hein, mais...
Ok, écoute, tu sais quoi, tu me donnes 2 secondes, ouais, parce que je dois m'accorder et tout. Ouais. Ok, je te fais ça.
Daddy said that I should love myself, but he didn't look me in the eyes. All I saw was a reflection, my hero with imperfection, and no place to hide. Self-love is so hard to find. You give yourself away and you wonder why. Self-love is so hard to find when you only see yourself from the right.
Merci beaucoup, Lubiana.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit... Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure, à partir de 6h du matin, dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.